Actu SF, les podcasts.
Eh bien, bienvenue en ce début d'après-midi pour parler donc du fléau, l'épidémie de science-fiction avec donc trois invités. Keith Johnson, né à Harlan, Iowa, qui est l'auteur de plusieurs romans et d'une cinquantaine de nouvelles et novellas. On lui donne notamment Un pont sur la brume, récompensé par les plus grands prix, Hugo, Nebula, Grand Prix de l'imaginaire et La quête onirique de Velid Bow. Si elle partage désormais son temps entre ses activités de romancière et les cours qu'elle dispense à l'Université du Kansas, elle fut longtemps responsable éditoriale chez Tourbox ou Dark Horse Comics, après avoir été libraire, éditrice de mots croisés cryptiques, publicitaire pour une radio locale ou encore serveuse dans un strip bar. Une merveilleuse présentation. À ma droite, toujours Robert J. Bennett, né à Bâton Rouge, qui est l'auteur de 8 romans, et notamment fait remarquer que sa trilogie de fantasy The Divine Cities, American Elsewhere, considérée comme son œuvre la plus marquante. Je suis mes fiches. Important. Et à côté de moi, Karim Berouka, autoproclamé grand spécialiste d'épistémologie et de physique quantique.
Pour la journée.
Chanteur et parolier du groupe punk Ludwig von 88, qui a appris à certaines personnes de mon âge qu'on pouvait pogoter en rigolant. Il publie ses premières nouvelles en 2002. Il est directeur de collection chez Griffe d'encre jusqu'en 2006 et la disparition de la maison. Il est anthologiste de Conquête et Exploration Infernale. Karim Berouka remporte le prix Elbakin.net du meilleur roman de fantasy francophone avec Fée, Weed et Guillotine. Et le Club des punks contre l'apocalypse zombie, récompensé du prix Julia Verlanger. Il plonge avec humour dans l'univers de H.P. Lovecraft avec son dernier roman, Celle qui n'avait pas peur de Cthulhu. Donc, le fléau, l'épidémie de science-fiction, fait évidemment référence à un des livres les plus connus et les plus marquants de Stephen King, publié à l'origine en 1978, qui aura connu des versions révisées jusqu'en 1990, et qui surtout est fondé sur une intrigue dans laquelle un virus dérivé de la grippe, développé par des militaires, est accidentellement rejeté dans la nature et décime plus de 99% de la population mondiale. S'ensuit un monde post-apocalyptique où une forme de société néo-manichéenne se développe entre deux groupes. Et les suites, je ne vais pas parler plus avant de toute l'intrigue du fléau, qui en plus est en cours d'adaptation en mini-série à la télé, de réadaptation, ça a déjà été le cas. Surtout, ce thème du fléau, du virus, et surtout cette espèce d'idée post-apocalyptique, est un des thèmes les plus féconds et populaires de la fin du XXe siècle, qui va répondre en écho à énormément d'événements qui vont profondément altérer la société dans laquelle on vit, de l'apparition du sida, aux peurs millénaristes de différents virus, du H5N1, au SRAS, au développement des nombreuses fictions sur les zombies et au succès assez sidérant des thèmes post-apocalyptiques dans les séries et les romans à la fin du siècle. Aujourd'hui, mais évidemment, au-delà de ce succès et du thème, forcément, c'est un thème qui est revisité de manière extrêmement différente par différents auteurs dans leurs univers, auxquels je vais donner la parole, évidemment, sur...
I've been teaching science fiction now for some years, and we talk a lot about how tropes, how elements function, and the plague overlaps functionally. A function in a story is what do we use it for to make drama, to make excitement in a story, and the plague overlaps with apocalypse and overlaps with mutantism in a lot of interesting ways. So a lot of times when we're dealing with plague, what we're interested in is population depletion. Some books, and I did some reading before I came, but I'm not going to tell you at all because it's a lot. But some stories are about if we do not stop this right now, we're in trouble. And Michael Crichton's Andromeda strain is a good example of that. But others like The Stand say, we are in the middle of watching us all die. And then that brings up a lot of questions about dramatic questions for the author to pick and choose from. Who dies? Did they deserve it? Who dies? Who doesn't deserve it? What happens to our systems when we lose large population? The Stand is a very extreme example because it just keeps going. Other stories like Why the Last Man, the graphic novel by Brian Vaughan, kills a lot of people, kills all the men, but then the population starts to recover. So it gives us many opportunities to build drama. And I think that's why it's so attractive. It's the invisible thing that kills us as opposed to spaceships.
Yeah, I would agree. I think that the flu and epidemics like it are a great way to basically take a society and put it through an intense stress test where the rules are changed. Like, a zombie outbreak is basically an exercise where you're suddenly asked, what if you had to kill your neighbors because now they're zombies? What if you, like, actually had to, like, walk into a store and start shooting people because they're zombies? It really kind of forces you to reimagine the context of your world, of a world with rules and then one without. But I read something about The Stand recently, an essay written about what The Stand really captures. And I had not thought of this before, but the point of the essay was that The Stand really is about how it felt to be alive alive in America in the 70s. Because the 70s were crazy. We just had a president resign. We had horrible inflation. We had huge oil shocks. And there was sort of this growing sense of doom in the 70s that we were struggling with. And so The Stand sort of speaks to, I suppose, I wasn't alive in the 70s, so I'm not exactly on authority on it. Okay, good. So am I right? Is this?
Actually, yeah. There was an enormous insecurity, and you didn't mention civil rights and women's rights. So it was a period when after World War II, we built this, we constructed a false America based on an illusion of the nuclear family and what work looked like, what fun looked like, what children looked like, what women looked like. And then in the 70s, it all came apart, and it became an enormous anxiety. And the question was, how do we continue, how do I stay myself in a world where everything is changed, where everyone but me and my family are gone, and maybe not even them.
Yeah. Yep. So I'm kind of glad I missed the 70s, I guess, is the point of my story.
Non, France était pas mal, hein, les 70s. Il y a aussi le côté au niveau du drama, c'est dans les années 50-60, on a de toute façon cette idée de la civilisation s'écroule, c'est quelque chose qui nous pend au nez. Elle est présente dans beaucoup de romans de SF et de fantastique. Dans les années 60, on utilisait plus l'idée d'une guerre nucléaire parce qu'on avait un ennemi désigné qui était le bloc de l'URSS, et il y avait vraiment un risque d'affrontement. Bon, cette menace a disparu. Donc, c'est vrai que la menace bactériologique ou virale, elle est quand même plus crédible aujourd'hui dans l'idée d'écrire un roman qui se tiendrait. Alors, je ne parle pas des histoires de zombies, parce que ça n'a rien de crédible, et encore moins sur le déclenchement du phénomène zombie dans narrativement, quoi. Mais voilà, c'est plus ce que je voulais dire, mais en tous les cas, j'y suis arrivé là.
I think zombies are the tool that is used by media and writers to talk about the other, making them vile and scary and inhuman, so we get to kill them. In fact, it's our duty to kill them all. Except that sometimes our mothers turn into zombies, or our beloved, our lovers become zombies, and then we have to kill them too. So it's all very dramatic. But yeah, the zombie is not
Oui, c'est plus sur la peur de l'autre que sur la peur de l'infection, de la contamination. Généralement, il y a très peu d'explications hein, au fait que du jour au matin, la moitié ou les trois quarts de la population deviennent complètement monstrueux. De toute façon, il ne peut pas y en avoir.
One thing that I think is interesting is there was a piece I read recently by an astronomer who wrote about how our society has gotten larger and complex and it seems more resilient. But like the Black Plague killed like half the population of Europe, like huge amounts of people died and they found a way to keep going. And so he was like, so do you think that we could be in a place where like a half of a percent or 1% of the population would die and we wouldn't break down? Like if you see on the news or on Twitter or on Facebook, the amount of death that's ongoing in your own country, how would you respond? And it was an interesting topic, this idea that because we're now all so connected and we see news constantly in the news has an incentive to highlight the really bad things because that's what we read right away. We're like, oh God. Because of that, we've actually made ourselves less resilient, where when we respond to threats or to a catastrophe, we've sort of built an industry that runs on hysteria. So we like to think that because we're more advanced, since we have more tools, we have made these huge strides in medicine, that we could respond faster. But the psychological toll is something that's worth considering too, and that well, because we're now sort of programmed for hysteria, that could do a lot more damage than the actual outbreak. Like when they had Ebola in America, they went insane, and I think we had six people got it or something like that. But everyone went nuts. Like there was a bathtub of Ebola outside your door; you could slip and fall into it. That was obviously not the case, but it was all over the news, and people freaked out over absolutely nothing. And that was nothing. So what happens if it's something?
It just absolutely. One of the things, and it's not just the news. Our news is, American news especially, I think, is increasingly hysterical and screamy and at all times. And our entertainment media has stepped up as well. So entertainment, and we speak as writers, stories are always, people are always interested in bad stories. People don't always want to read a happy story. In fact, they often don't. But we've now conditioned everybody that every piece of input we get now is scary and what do you call it? Scare? There's a name for it, but that moment in a movie.
Jump scare.
But I think it's interesting to go back to the beginning of that, young adult science fiction so frequently starts or is about what I call the great die-off. It's always about a vast amount of the population dying off. And then, now it's Pan Am, if we're Hunger Games, or it's Divergent or Maze Runner. And even the fantasy stories, often it's like they cut the population way back because things are so complicated. And the writers and I think the readers are looking for something that's more streamlined. Because in the real world, there are too many connections to write a simple story anymore. But killing everybody off, and what easier way to do that than a disease? Killing everybody off gives us the opportunity to, and I'm not saying that in a good way, gives us the chance to write a story with a simpler set of rules.
Je voulais reparler de la peste noire que vous avez évoquée, qui est un peu, en tous les cas pour le monde occidental, le seul exemple qu'on a, qui est documenté, d'une véritable épidémie, pandémie, qui va détruire entre 30 et 50% de la population sur 5 années, et qui va réduire le niveau démographique de l'Europe à un tel point qu'elle mettra 3 siècles à s'en remettre. Et donc on s'en est remis, on va très bien, mais ça a provoqué énormément de changements. Au niveau des villes, ça a d'abord vidé les villes, ensuite ça a vidé les campagnes, ça a engendré beaucoup de pas des crises, mais des mouvements de mysticisme, parce que les gens étaient persuadés que c'était le fléau de Dieu. Les gens se retrouvent devant une situation qu'ils ne comprennent pas, donc ils vont penser que c'est d'ordre divin. Ça, c'était aussi une chose qui arrivera probablement plus jamais, parce qu'on était au niveau médical très, très, on va dire, incompétent. En tous les cas, on connaissait pas la cause et on connaissait pas ni les modes de transmission. Donc, on a fait un peu n'importe quoi, ce qui a permis à l'épidémie de progresser de plus en plus vite. On incisait les bubons et c'est le truc qu'il faut vraiment pas faire. Mais c'est vraiment un exemple historique. Et en s'inspirant de cet exemple, on pourrait essayer de voir qu'est-ce qui pourrait arriver aujourd'hui dans une société qui est hyper industrialisée, hyper connectée, tout en sachant qu'on était aussi à l'époque dans une période de surpopulation. L'Europe était les villes commençaient entre périodes de surpopulation, le système commençait à se gripper, et ça a fait une sorte de tabula rasa en balayant la moitié de l'Europe, et qui lui a permis au fur et à mesure de repartir sur des bases qui finalement ça a marqué la fin du servage, par exemple. Ça a relancé en fait à la fois l'économie qui était sclérosée. Et alors bon, je dis pas qu'aujourd'hui il faut tout casser pour repartir, mais c'est effectivement dans une société qui est tellement compliquée, tellement imbriquée, où pour changer quelque chose il faudrait tout changer d'un coup, ce qui est complètement impossible. Pour l'auteur de science-fiction, c'est parfait. On a 90% de la population qui disparaît, donc on part sur de nouvelles bases. Et là, on reconstruit bien, on reconstruit mal. Et on peut, voilà, au niveau imaginatif, c'est vraiment très, 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 très bien pour l'auteur, en tous les cas. Peut-être pas pour les gens qui ne vont pas survivre, mais...
Dans ce qui est dit, en même temps, on peut noter une forme de paradoxe, qui est que l'idée du fléau ou l'idée de repartir, de rester avec 10% de la population, permet de se libérer des contraintes narratives et de créer directement, presque ex nihilo, un nouveau monde. Mais il me semble quand même que dans la plupart des récits qui s'appuient sur ce type de fléau ou d'apocalypse, la manière soit dont on va expliquer comment il se développe, ou ses conséquences, ou la révélation de la nature des êtres qui survivent, est quand même toujours à la fois une forme de commentaire sur le monde qu'on vient de détruire. Si je prends par hasard le club des punks contre l'apocalypse, il me semble quand même qu'il y a une forme de commentaire assez net.
Oui, mais la destruction de l'humanité, c'est un prétexte. L'arrivée des zombies, c'est des faire-valoir. Ça va me permettre, moi personnellement, de mettre en scène des punks qui décident de reconstruire le monde différemment, sous la version égalitaire, libertaire de la société, qui vont évidemment avoir des problèmes pour le faire, qui y arriveront ou pas. Mais c'est vraiment un prétexte. Et c'est vrai que comme on disait, je ne vais pas... Sans qu'il y ait de la destruction de la société actuelle, le propos serait complètement différent. Je peux avoir un groupe d'extrémistes qui veulent imposer une société comme ils la voient, mais ça ne peut pas fonctionner, c'est compliqué. Alors que s'il n'y a plus rien, on repart du zéro, cette fameuse tabula rasa, et on...
In some ways, epidemic stories are the ultimate in escapist literature, because they give... young people a chance to say, when we're young, we want to test ourselves, we want to find out what we're capable of, and many, many games are about this, but I think that the sense of, let's clear out all the deadwood, and now there's now it's just me and the world, and now let's see what I can do, me and my friends, me and my peers, me and the people that I care about. Now let's see what we are capable of creating. I think you're exactly right that there's an impulse towards, at the backside of a flu, things change. At the backside of an epidemic, the world is different, and young people want to try themselves against a different world. It's a lot more interesting than going into an office.
And to a certain extent, it's also cheap. It's simple and easy. Like, if there's a nuclear war, then I've got to think about, like, radiation, about if the wind's going to carry it, How did they survive? Because, you know, like that's like thousands of years of things being radioactive now. I've got to think about that. That's hard to put a person through. If it's a hurricane or something like that, then we have to think about floodwaters. We've got to think about wind and water and boats. You have to, like, I've read about boats for books, for like research. It's hard. Boats are complicated, and boat people will jump all over you if you call this one little knot the wrong name. They'll be like, "Look at this moron." So, but with something like the flu or an epidemic, it's easy. Everyone knows how it works. People get sick, and then they die, and some survive, and some don't. And one thing that's also fun with an epidemic is that it also helps you examine how much we depend on each other. There's a part in The Stand where they have to get gas out of a gasoline tank at a gas station, and they don't know how to do that, and it's really dangerous, where they have to like open up this trap door and go down and like activate a pump, and this guy almost loses his hands. I don't know how to do that. I don't know how to get gasoline out of a gas station. I don't know how to fix a car. I don't know how to fix a motorcycle. I barely know how to ride a motorcycle. So when you lose all these people who provide these services, suddenly just staying alive and doing things that you've normally done for 5, 10, 20 years is hard. And it's fun to try and be like, man, how would I make bread? I don't know how to, like, you know, go out and get wheat. Like, you know, that's really hard. So it's just a fun way to basically poke at the rules. We have these rules in our head about how the world works, and then once everyone's gone, we have to make up totally new rules.
The graphic novel Why the Last Man is really good at this. In that story, all the men and most of the male animals die in one instant, and it's a little more complicated than a plague. But the problem then becomes the problem of after a plague, because when you lose all the men, you lose almost all the nuclear engineers. You lose most of the pilots. And so their immediate problems is all the planes fall out of the skies. And then there are longer term problems, as in there are now 3.5 billion bodies. And there's a beautiful and ironic image as they fill a football stadium with the corpses of men stacked to 100 feet deep.
Sympa.
Just like football.
Nice.
Est-ce que j'entends effectivement, on a donc cette idée que ce soit un pratiquement juste un biais, presque un gimmick narratif pour parler d'autre chose. Et en même temps, il me semble quand même que... Et en même temps, on a ce lien-là, c'est-à-dire que quand on explique effectivement qu'à partir du moment où on n'a plus d'hommes, on perd des fonctions clés d'une société qui sont actuellement uniquement occupées par les hommes, voilà, on ne le fait pas de manière anodine. C'est-à-dire qu'il y a quand même effectivement ce commentaire qui est là tout le temps. Et c'est quelque chose qu'on retrouve énormément dans l'évolution du film de zombie ou dans la figure du zombie, qui, chez Romero, va être directement un commentaire sur la société américaine. On a ces scènes incroyables dans Le Mot, je crois que c'est dans le deuxième.
Dans le deuxième, ouais.
Dans le deuxième, hein, où les zombies, quand ils n'ont plus que des réflexes moteurs, ils vont faire les courses. Dans un mot. Donc on a un vrai commentaire aussi sur la manière dont on fonctionne de manière automatique sans se rendre compte des conséquences. Et après, au-delà, ça devient effectivement un motif pour développer une société ou pour analyser des interactions plus simples ou en tout cas la manière dont fonctionnent des êtres produits par une société à un moment donné quand on leur enlève leurs repères ou les lieux de leurs automatismes. Et je trouve que c'est quelque chose qu'on a notamment dans le club des punks contre l'apocalypse, c'est le fait que le zombie n'est qu'apparemment la pire menace.
Ouais. Tu peux développer, j'ai pas très compris. Tu veux dire qu'il y a pire que lui.
Bah, quand on a une invasion de zombies, en général, on se dit qu'on va pas vraiment tomber sur plus inquiétant.
Ah oui.
Et
oui,
on se rend compte relativement rapidement qu'il y a quand même un truc plus inquiétant que les zombies, ce sont les cons.
Oui, mais ce sont les hommes en général, parce que les zombies, finalement, ils se font tous zigouiller un par un. Enfin bon, c'est quand même de la fiction qui a aucun ancrage dans la réalité. Enfin, le phénomène zombie, je sais que ça fait plaisir à des gens d'imaginer qu'il y ait des zombies qui arrivent, mais ça arrivera jamais, quoi. C'est pas possible. Mais bon, c'est un bon faire valoir pour le pour la narration, le zombie, et dans, avec tout le ressort dramatique et comique, dans mon cas, c'est parfait, quoi. Ça permet de créer des situations qui sont peut-être, voilà, enfin, qui permettent de me mettre des groupes de personnages dans des situations complètement aberrantes et complètement nouvelles par rapport à ce qu'on peut, nous, vivre aujourd'hui dans la société, à part à mettre des gens sur une île déserte. Mais bon, enfin, c'est bon, on a Koh Lanta, ça suffit, quoi.
I think to the start of your comment that we use epidemics to create situations for adventures, but that epidemic stories really fall into three categories, which are containment narratives. There is something that could kill us all, and we must control it. Robin Cook wrote a lot of those. The Andromeda Strain is one of those. The second one is there are very few of us and many of them, or there are very few of us and nobody else. But the third one is, and the species could die. And I think that those three stories, they overlap. We'll see people, certain stories go through all stages. World War Z starts with a containment story, becomes a, there are many of them and few of us, and eventually becomes a yes and we survive story. But I think those three operate differently for the reader, and they require different things of the storyteller as well.
So far, and I think that, but like in this discussion and in fiction, we've mostly seen epidemics as sort of a gimmick. You know, it's a tool, it's a technique, and it's rarely looked at as a way to examine the actual thing itself. Like, we're not actually talking about the flu. We're talking about, like, the 1970s or whatever. But I think that might change in the near future because of advances like CRISPR, which is a gene-altering tool that just really came out like 5 years ago and is immensely powerful and immensely accurate and super cheap and easy to do. Yeah, they, like, you can do it in your garage. You can change the genes of, like, yeast. They have these kits that can be sent to your house. You can sign up and buy them for, like, literally $20, where you can change the yeast, the genes of yeast in your garage, and you can make bread that glows in the dark. You can do that now. That's the thing. And that's just one tool of many, many tools that are being made right now. They're currently using it a lot, or trying to think about using it a lot to change, to help fight diseases and things like that. But the problems are obvious, where if one person gets a hold of this and uses it to change a virus in one way, for example, it's plausible that you could make some sort of like bacteria that just attacks one race of human beings. That's bad. There's a book called Nexus, which is a near future science fiction story by Ramiz Nam, where there was an outbreak, I think Idaho in America, that killed a huge amount of people, and it turned out that it was being done by white supremacists.
I guessed that when you said Idaho.
Yeah, well, there's lots of white people. And so that led to huge laws about you can't alter the human body. It was pretty much like the like a 9/11, but for biotech. In this story, so they had to create this whole new department that would specifically say, like police, that you can't change the human body, you can't change genes, and this, of course, leads to, you know, huge conflicts. But I think as biotech becomes more predominant in our lives, we'll see more stories that use epidemics as a way to examine the ethics and the ramifications of what we're doing.
There was a book by Frank Herbert called The White Plague in the 80s, I believe, where a man whose family, whose wife and daughter are killed, kills all the women using a plague. This is a question that people have been writing about. You know, what happens when you can tailor how you kill people. What happens if you if one person, one clever scientist, or person with a yeast kit in their garage, can figure out a way to kill everybody who throws their cigarettes out of the car.
And so one thing that's really crazy about CRISPR is that they've found a way. So like if someone changes my genes and I have kids, there's only a 50% chance that my child is going to have those changed genes. But they found a way to make a thing called a gene drive, where they change my genes, but they also change my genes so that when I have kids, my genes change their genes. So it's a 100% chance that my kids will inherit the genes that have been changed. They are using it right now. They're looking at using it to alter a whole population of mosquitoes so that they can't carry a disease. And it depends on how fast they breed, like how fast the creature breeds, but slowly you would change a whole population just naturally. You just have to put some out in the environment, they would breed, and they would change the genes of an entire species in one region. They're looking at it in New Zealand because there's lots of birds on the island that are native, that are unique, but because humans now live there, they've brought rats and cats with them and lots of predators, and they've killed huge amounts of birds. There's all these sorts of birds that are almost extinct in New Zealand. So they want to find a way to get rid of the rats. And they were looking at a gene drive that would basically make their children sterile. And so they would wipe them all out naturally. And of course, the question is, what if a rat gets off the island? What if there's like a few like make it to China and start to breed with all those rats, and within like two generations we're suddenly running out of rats? That seems like a nice thing, maybe, but what happens then? What if we find out that the rats were keeping a population of bugs held back, and then all sorts of fun problems come from there.
Je repensais à cette idée justement du gimmick. C'est vrai que récemment, on a eu pas mal de récits en fait, ou de remakes qui l'ont utilisé comme début. Un des plus marquants, pour moi, c'est le dernier remake d'I Am Legend, où justement toute l'interview, avant même le générique, c'est justement d'une scientifique qui a réussi à guérir le cancer. Où elle a guéri tous ses cas. Et en fait, l'interview s'arrête finalement et se finit sur ces quelques phrases. Donc vous avez guéri le cancer. Et elle dit oui. Et là, ça se coupe. On a 3 ans plus tard, si je me rappelle bien. Et là, tout d'un coup, on a justement des plans de la ville complètement vides, sans plus rien. Avec en plus ce qu'on entend derrière, évidemment, juste par les images, hein, mais c'est pas dit, c'est que oui, elle a vaincu le cancer qu'est l'espèce humaine pour la planète. Et qu'effectivement, ou des exemples plus récents, on va avoir des réinterprétations du fantastique avec cette idée du fléau du virus, The Strain de Guillermo del Toro, qui à partir de son roman a redéfini l'idée de la contagion du vampirisme, en fait vraiment avec le CDC qui intervient, qui essaye de découvrir le mode de transmission, la souche. Effectivement, ça a servi à faire cette espèce d'hybridation, ou en tout cas de donner un caractère réaliste à des thèmes qui au départ étaient des thèmes purement fantastiques et qui apparaissaient dans des récits caractérisés par l'irruption de l'irrationnel dans un monde rationnel, et que là on a réussi à réintroduire et renouveler par justement cette idée du virus. Une chose qui m'a frappé tout à l'heure dans cette idée justement que quand on est dans ces mondes post-apocalyptiques, on se retrouve face à son propre incompétence et son interdépendance aux autres. Et ce qui me frappe, c'est que la multiplication des récits de ce genre, et pas seulement ceux de zombies aux États-Unis, correspond, vu d'ici aussi, à une montée du survivalisme. Et qu'il y a quelque chose qui me semble du même ordre dedans dans la société américaine. Est-ce que les gens pensent que ça va s'arrêter, espèrent que ça va s'arrêter, ou estiment que ça aurait déjà dû s'arrêter?
I think right now, like we're seeing a wave of just anxiety in America. There was a piece recently about how like lots of like billionaires and millionaires have these private little meetings where they talk about like where are you going to go once it happens. And they're not sure what it is. Is it like, you know, a social like revolution? Is it some sort of climate catastrophe? Is it a viral outbreak? Or is it a natural disaster? But they are thinking about like basically their escape hatch from the country, from the world almost. And I think that the rise of survivalism is a reflection of of that anxiety. And I think it's something that we've seen, you know, we had 9/11, then we had the Great Recession. And there's just this sudden awareness that the institutions and the systems that have made our way of life possible are possibly not as healthy as we think. And it's not great that our reaction is, well, let's try and make them better. Rather, it's, I got to buy a whole lot of beans and bullets in case this all goes down. Like, that's not a terribly healthy reaction, I think. And so what I'm hoping is that this wave of survivalism and anxiety is eventually subsumed by a resurgent of, like, just civics, this idea that we can make it better, and we can't just make it, period. And I'll be really curious to see what happens in the next couple of years, but I absolutely think this rise of survivalism is a manifestation of these fears.
I think, interestingly, after the Trump election, a lot of liberals became preppers, we call it, people who started stockpiling things in their basement. Before that, in the United States, the theory was that it was always conservatives. It was right-wing, racists, Nazis, you know, that these people had, in fact, Idaho, I made the joke about Idaho because Idaho is sort of famous for being where a lot of these groups live, these hate groups.
Is it Idaho?
Not Iowa. I grew up in Iowa.
Okay.
We have our own problems, but but after that election, the anxiety, which had been on the liberal side, had been changing. For 8 years, liberals and people on the left side had felt safe and had felt like the world was getting better, and then all of a sudden it changed, and everybody started responding the way that the conservatives had been responding. The fact that we used the exact same mechanism was very unsettling. And like you, I really hope that what happens instead is that the sort of civic unification that's happening in the very young is something that moves forward.
Vous venez de redéfinir l'élection de Trump comme une attaque virale. Hein? On est d'accord.
Yeah. Don't get me started.
That's too easy. I'm sorry.
I think I once read a short story about that used this great metaphor. There's this mold species, a fungus that is in the tropics. And what it does is it infects ants. And they grow a spore, like a shoot from the back of their heads, and it takes over their bodies. And it makes them go back to the colony, so then it can erupt and infect all these other ants. And what the ants have found a way to respond is once they find that an ant has been infected, like six of them will drag it away from the colony and let themselves die out in the woods all alone, rather than have it infect the colony. But what this short story implied in this one part is that that's basically also how ideas work, is that an idea is like a virus. And once it gets, and once you find a way for it to get spread around, suddenly it changes a whole population, it changes a whole society. And I really like that idea of an idea as a virus. And I think increasingly, as we're more and more connected, and we just are reading more. Like, we think that we don't read books anymore, but we are reading like six times as much as we used to, just because we're reading social media and we're reading articles and we're reading all this crap. But as we are like exposing ourselves to more and more ideas, it's an interesting question of, so which one of those is a virus? Which one of those is going to infect our heads and make them explode? And I have some ideas. Maybe you have other ones. But it's something that I worry about more and more.
Thinking about ideas and actually media as an infection, as a virus. When I was preparing for this, I was reading, and quite a number of articles were talking about that science fiction is full of the idea as virus, the idea as an infectable thing. I think that one of our problems now, I went on a social media fast, stopped all social media for a while, and didn't, and I found I was reading a book a day.
Wow.
And had more free time anyway. But social media, because it's low value, it's high noise, low signal. So low value per beat, per moment of doing it, ends up being much more destructive. And the message that the virus that is implanted is this anxiety, is this fear and anxiety and paranoia and helplessness. It also is where I connect with all my friends, so it's complicated. It's like cigarette smoking. It has both a good and a bad part to it.
Yeah. Yeah, I wonder with regards to that, like maybe we just haven't evolved to the point where we can know so much stuff is going on in the world. Like, it's really weird once you realize how big the world is, and you realize that there's like whole cities in China that are that are the size of New York, but instead of one New York, there's like 40 of them. I mean, like, I've never even heard of this place, but it's huge. And you start to read articles about what's happening in all these cities, and suddenly it's this crushing awareness of the size of the world and what's going on, and it really affects the way that you think. And I wonder if it's a little bit like, you know, if you drink a whole lot, it hurts your like immune system, and it makes you more susceptible to infections. So if we are mass consuming all these like stories about these places in the world, and they're exhausting us both physically and mentally, is it possible that one of those ideas can now infect and colonize us faster and better? You suddenly become much more vulnerable to a lot of stupid crap if you're tired.
We could take some questions. For once, that's the lecture. Oh, pardon. On a le luxe d'avoir du temps pour des questions.
En fait, je voulais savoir qu'est-ce que, en tant que fléau, l'épidémie de science-fiction, en fait, bah, il paraît que la peste noire, c'est vraiment l'une des pires, mais si on aura des maladies encore pires, par exemple, un espèce de cancer, un virus, un truc bizarre, en fait, le symptôme, bah, ça va être un espèce de des mutations, les tumeurs osseuses, mais vraiment des os, même à l'intérieur des organes. Il paraît qu'il y a des maladies génétiques, en fait, il y a une qui fait que tout devient os, en fait. Mais ça aurait fait quoi, une maladie, la même version, mais génétiquement encore plus pétée, genre, en fait, tout se transforme en os, les os se mutent comme si c'était... Il y avait une espèce de volonté bizarre, mais ce genre de maladie, en scénario de science-fiction, ça aurait été ultra flippant. Des trucs comme des os, franchement, ça ferait hyper flippé, des espèces de tumeurs osseuses vraiment qui sortent de... Comme ça, on dirait que les infectés avec ça serait encore plus flippant que le classique des infectés de la science-fiction. Ça serait vraiment ultra flippant.
Enfin, s'ils ont les os tous soudés, ils vont avoir encore plus de mal à courir après les survivants. Mais en général, dans les épidémies, il n'y a pas besoin d'avoir beaucoup de trucs gore. La peste noire, ce n'est pas un truc gore. Les gens n'explosent pas dans des nuées d'intestin et tout ça, c'est juste quelque chose qui se transmet et qui tue. Et à l'époque, on ne connaissait pas le moyen de l'endiguer. Aujourd'hui, on est beaucoup plus avancé en médecine, et on l'a vu avec l'épisode du SRAS qui aurait pu être une véritable épidémie. Ça a été contenu quand même, bien qu'il y ait eu pas mal de cas en Asie, mais ça a été contenu assez rapidement. Et pourtant, c'était une belle saloperie, quoi.
Like one type of epidemic that I don't think that we've talked about and really isn't discussed often is, you know, like we're talking about it as an infection or like a bacteria or a virus, but a toxic like epidemic like poison, mm-hmm. is also something that seems like mundane. It doesn't seem gross. It doesn't seem like, you know, things are exploding, but it can have horrible effects. Like, for example, like one thing that they're concerned about right now is that men are producing way less sperm than they used to. And like, I think that the current sperm counts for most men in the West are like 40% lower than their fathers or their grandfathers. And they think it has something to do with plastics, that that the plastics are affecting the hormones of pregnant mothers. So when their kids are born, they just, and if they're boys, then they just make less sperm. And like, this is, it's more frightening because you don't see it being gross. You don't see it see it causing these horrible effects. It's not a tangible damage. But it's also really hard to escape. Like, they have plastics in everything. We put plastics in almost every part of our lives. And so the question of which plastic and how are we going to get rid of it, that's much harder to do. That would require a whole, like, lifestyle change for the West. So sometimes the most frightening things are the ones that seem quite mundane and you don't see it right. And it's not exciting. It's not exciting to talk about plastic, but holy crap, I don't want, like, the whole species to be sterile.
No, 60% would be still fertile. Yeah. So it might just be, and part of it is also that it's very complicated, mm-hmm. because a population correction happens in animals. That fertility goes down when a population, when a community of animals is overpopulated. Not all of them, but many.
Non, je voulais te donner l'exemple de la syphilis qui maintenant se guérit très bien, mais qui a été qui a tué beaucoup de gens. Et en fait, il y a juste à côté, il y a une sorte d'animation. On peut voir les effets qu'ont la syphilis sur le crâne au bout de. Mais c'est une maladie qui justement est pas du tout horrible. On voit rien au début. Ça se passe. Il y a des petits furoncles. Et puis ça devient invisible pendant. Jusqu'à ce que ça bouffe complètement le crâne et ça a rien de visuel, ça a rien d'horrible, c'est pas mais c'était ça a été une pandémie puisque ça a tué quand même énormément de gens pendant des siècles et des siècles jusqu'à ce qu'on découvre la pénicilline.
Et je repensais là en écho à ce qu'on disait sur l'invasion du plastique, c'est l'infection du vrai par le faux et la sublimation du réel par le truc, c'est le grand thème de Philip K. Dick. Et notamment, on sait que la chose qui l'avait marqué à l'époque et dans les premières visions, d'ailleurs ça aurait été aussi le cas de Kim Stanley Robinson, c'était l'idée de voir la Californie passer d'un état d'état rural, en tout cas, et de le voir se recouvrir de faux bâtiments, de fausses maisons, de voir justement de fausses matières. Une chose très étonnante qui nous parle moins à nous, sauf ceux qui connaissent Marne-la-Vallée et autour de Disneyland sur des choses dans certains types d'urbanisme américain, sont les fausses façades, où la manière dont certaines façades ne correspondent pas à l'architecture derrière du bâtiment, mais sont faites pour organiser le regard des passants dans la rue. Et c'est des choses qui ont énormément marqué et qui forcément ont une résonance assez particulière 50 ans plus tard, quand on se rend compte qu'en fait, cette invasion du plastique et l'invasion du faux dans le vrai et la potentialité qu'on ne puisse plus nous-mêmes derrière profiter ou en tout cas continuer sur des réflexes, des mécanismes naturels, en fait, prend un sens beaucoup plus concret, beaucoup moins métaphorique, beaucoup plus inquiétant, en fait. C'est juste ça. Une autre question.
I think just taking another approach on that question, there's so many ways. Because science fiction is a lot of times about the body. Do we need one? Do we? What does a body look like? What is? What can we change in our bodies? And plagues and things like that are fun, for some values of fun, because they're sticky or there's goo coming out of people. But we tend to go that direction. We tend to go to these flesh falls off body. But there are many other possibilities just from a dramatic standpoint. If I were making up a space flu, there are many other things I could have happen to bodies that would be very interesting, some of which would be based on actual science and some would just be made up.
Bonjour. Alors, je suis là. Juste, je rebondis vite fait sur Philip K. Dick parce que moi j'ai eu la chance de produire un jeu autour de Philip K. Dick avec Arte qui s'appelle Californium et qui est en plein dans la thématique de la facticité du monde. Voilà, bon, ça c'était le petit instant auto-promo. Allez y jouer, c'est vachement bien. Juste une petite réflexion et du coup une question derrière. Alors c'est une réflexion personnelle à propos de ces espèces de mécanismes de fléaux qui annihilent une partie de la population et après il y a une espèce de voilà, narrativement, une reconstruction du pacte social, comment les humains vont se réorganiser, etc. Moi, j'ai l'impression que c'est un petit peu... on en a un peu fait le tour. Il y a les Cormac McCarthy de La Route, le Walking Dead, etc. Il y a cette série The Leftovers qui me vient à l'esprit où il y a une partie de la population qui disparaît, mais en fait, il se passe pas grand chose, c'est-à-dire qu'on reste dans un monde réel, et j'ai trouvé ça assez fascinant dans la manière dont les mécaniques de narration, de récit se construisent, et quelque part peut-être un peu plus fin que du simple survivalisme. Donc ma question, c'est pas une question, c'est plutôt, est-ce que vous avez des exemples de ce type à partager avec nous? Et aussi, est-ce que vous pensez que ce genre est un peu en train de, on est un peu en train d'arriver au bout de ce genre, voilà.
I think that fiction, adventure fiction, and science fiction is adventure fiction often, always likes the edge case. It likes the extreme examples. And so apocalypse and the race dying and the big picture is where books get written because there's so many things that can happen. I think short fiction, and I've been trying to think of a literary short story I read fairly recently where people are dying off and it's two teenagers as everybody is dying off, and there aren't that many people still alive in their neighborhood. And these two teenagers have taken to breaking into people's houses to see what they had. And they're flirting with each other, but they both think they're going to die eventually anyway. And it's a very personal, very intimate story that takes place inside of an epidemic. And I think that those stories, a lot of times they're harder to... harder to convince the reader that they're worth reading. They require deep characterization, and many people, the minute they read epidemic in a story, they assume it's going to be an adventure. So the people who like those interstitial stories are not going to read a story with an epidemic in it, and people who like epidemic stories are going to be bored by those stories. That said, I think there's room to write interesting stories in there, and I wish more people did.
Yeah, I think that there's a lot of ways that you could use it so it's not just a disaster story. That being said, I am pretty sick of disaster stories, personally. One thing I'm really sick of is, have you noticed that in superhero movies, like which are supposedly light comedy and upbeat sort of stuff, sometimes, there's always like a 9/11 level like disaster, where it's the end of the world and the buildings are falling down. Very rarely is it just like, you know, have like some people having some low-key problems. I think that Ant-Man is one that did that recently. I mean, there's an appetite for adventure and excitement and fantasy and science fiction, but for some reason we've gotten like addicted to building in just huge amounts of catastrophe in them. Where it feels like nowadays it's hard to think of a science fiction story or a fantasy story that doesn't have, that takes place in the real world, that does not have a scene where a huge city is just destroyed and thousands of people die.
I think that superheroes are a good example of this, actually, that science fiction has tropes, has story types that it explores, and it almost always explores them sensationalistically first. But as the trope matures, it becomes a vocabulary. And so now we do have low-key superhero movies. We have funny, and we have dark, and we have relationship superhero movies. But it took years and years and years of superhero movies being about superheroes before we got to a place where we could say, what else is possible? With epidemics, that just hasn't happened yet. There have not been enough epidemic stories for us to get to that point.
So write more until we're sick of them, and then maybe they'll start getting good.
Juste un exemple sur l'histoire des zombies, parce que tu cites Walking Dead. Pour moi, ce n'est pas un truc très original. C'est plus original au niveau de la relation des personnages, mais le pitch et le développement, en tous les cas la série, parce que je n'ai pas lu la BD, je trouve que ça s'enlise, hein, ça, c'est répétitif. Et alors, je peux citer une série anglaise qui s'appelle In the Flesh, qui, alors peut-être les gens connaissent, qui considère le zombie sous le côté réinsertion. L'épidémie est passée, on a réussi à les guérir en partie, et donc on essaie de les réinsérer dans les villages où ils ont mangé leurs voisins, par exemple. Et donc c'est pas très long. Je trouve ça assez fin et ça prouve aussi qu'on peut, sur un sujet qui est quand même rebattu, qui est souvent très archétypal, aller chercher des idées qui sont vraiment nouvelles, qui sont très originales pour le coup. Voilà. Mais tu connaissais peut-être.
Bonjour et merci déjà. Moi j'avais une question, et si en fait le fléau qui pouvait nous être infligés, on va dire, était quelque chose de beaucoup plus insidieux. Je pense notamment à des bactéries comme, désolé pour les traducteurs, le Toxoplasma gondii, qui serait à l'origine de notre affection et de notre attirance pour les chats. Est-ce que si, admettons, quelqu'un irait, en utilisant le CRISPR-Cas9, comme on en a parlé, infecter cette bactérie, et du coup, modifier nos comportements et faire de nous en quelque sorte des zombies, mais d'une autre manière. Est-ce que il n'y a pas une voie là-dedans à chercher?
Il faut se lancer. Hein. Il faut écrire des histoires. Hein, si vous avez des idées qui sont originales, et je pense qu'il y a toujours la place pour les écrire. Il ne faut pas hésiter. Hein, c'est pas. Après, au niveau narratif, on peut faire tout ce qu'on veut. Hein. C'est pas un souci. Après, au niveau scientifique, c'est une autre histoire. Mais je ne sais pas qui a posé la question parce que je ne vois pas où vous êtes. Là-bas. Je suis un peu aveugle.
C'est étonnant quand même, par les questions, on se rend compte que le lecteur de science-fiction a quand même plein d'idées sur des manières sympas de mettre fin à l'humanité. Hein ? C'est pas très rassurant pour la suite. Je vais me faire des amis au niveau de la technique et de l'organisation en expliquant qu'il est l'heure, que si un de nos intervenants a envie de conclure ou de dire une dernière chose, nous finirions dessus. Eh bien sinon, nous allons les finir.
Moi, je veux juste dire que pour détruire le monde avec un virus, il ne faut pas forcément des effets 3D gigantesques. Hein. Déjà, rien que même que on évoquait le cas de l'Ebola aux États-Unis, rien que la peur de la contagion, il suffirait qu'il y ait un début d'épidémie d'un truc assez crado dans un pays comme le nôtre ou les États-Unis, dans les pays orientaux, pour que ça parte complètement en live et que ça génère une panique monumentale qui serait beaucoup plus dévastatrice que la maladie elle-même. Donc voilà, c'est tout ce que je voulais dire, et je vous souhaite une bonne journée.